Le journal de 8h présenté par Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, entre destruction de drones et cyberattaques, les situations de tension se multiplient entre l'Iran et les États-Unis. Le point dans un instant. Une tension qui sera d'ailleurs au cœur de l'entretien que vous aurez à 8h20 en compagnie de votre invité Eric Delvaux.
Oui, Laurence Nardon, la directrice du programme Amérique du Nord de l'IFRI. Question aussi sur Donald Trump et la présidentielle américaine l'an prochain. Rendez-vous donc effectivement à partir de 8h20.
Dans le reste de l'actualité, les préparatifs à la canicule annoncés pour cet après-midi dans l'Hexagone. Dans ce journal, nous verrons quel dispositif est mis en place à Paris. Journée de manifestation hier samedi, de 5000 à 8000 personnes se sont rassemblées à Belfort pour dire leur opposition à un plan social prévu chez General Electric. Mobilisation des gilets jaunes également, qui auraient été près de 12 000 à manifester en France hier selon le ministère de l'Intérieur. Le kit au double des Françaises ce soir au Brésil, face au Brésil en 8e de finale de la Coupe du Monde de football. La victoire hier soir des Bleuets en rugby face à l'Australie des moins de 20 ans qui conservent leur titre mondial. Enfin, le Grand Prix de France de Formule 1 cet après-midi au Castellet. Une actualité sportive plutôt chargée dans le journal des sports présenté par Fabrice Rigobert à 8h10.
France Inter.
Chaque jour qui passe apporte son lot d'informations sur les tensions qui animent les relations entre l'Iran et les États-Unis. Après l'attaque de bateaux dans le détroit d'Ormuz, immédiatement mis par les Américains sur le compte des militaires iraniens, après la destruction en vol d'un drone américain par les Iraniens en milieu de semaine, et alors que Donald Trump s'apprête à annoncer demain lundi de nouvelles sanctions à l'égard de Téhéran, voilà que la presse américaine révèle que cette semaine également, les États-Unis ont lancé plusieurs cyberattaques contre des systèmes de lancement de missiles iranien et contre un réseau d'espionnage chargé de surveiller le passage des navires dans le détroit d'Ormuz. Les précisions de l'un de nos correspondants aux États-Unis, Loïc Piala.
D'après Yahoo News, les attaques ont été menées par US Cybercom, une structure spécialisée au sein du ministère de la Défense. Si elles n'ont pas fait de dommages ou de victimes humaines, elles n'en restent donc pas moins des opérations militaires. Elles auraient visé un système informatique utilisé pour lancer des missiles, ainsi que le groupe considéré responsable de l'attaque de deux pétroliers la semaine dernière. Ont-elles été efficaces ? Trop tôt pour l'affirmer, les dégâts sur les réseaux informatiques ne seront de toute façon pas permanents. Donald Trump doit annoncer lundi de nouvelles sanctions contre l'Iran. Le président américain, moins belliqueux que certains de ses conseillers, préfère mettre la pression économiquement sur ses rivaux. Les cyberattaques lui offrent une option supplémentaire, moins violente qu'un conflit armé. Mais la République islamique a aussi des pirates informatiques. L'administration Trump a conseillé samedi au monde industriel de surveiller d'éventuelles attaques venues d'Iran. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
De leur côté, les Iraniens ont d'ores et déjà prévenu que la moindre attaque des États-Unis contre eux aura des conséquences pour les intérêts américains et leurs alliés dans la région. Un dossier donc sur lequel vous reviendrez en compagnie de votre invité à 8h20, Eric Delvaux.
Exactement. Dans l'actualité de ce dimanche également, l'arrivée imminente de la canicule en France.
Un épisode caniculaire attendu en effet dans l'après-midi et pour une semaine pratiquement. Le niveau 3 du plan canicule, c'est une échelle qui en compte 4, va ainsi être activée dès 16h à Paris. En Seine-et-Marne, dans la capitale, comme dans d'autres régions de France d'ailleurs, différentes mesures sont d'ores et déjà envisagées pour protéger la population. Émilie Ferry.
Le niveau 3 sur 4. Paris passe en vigilance orange à 16h avec tout un tas de mesures de prévention. D'abord dans les établissements de santé et dans les maisons de retraite où la surveillance des personnes âgées va être renforcée. Vigilance aussi pour les manifestations sportives et les événements auxquels participent des enfants cette semaine. Il y aura 3 fois plus de maraudes dans les rues pour donner de quoi se rafraîchir aux sans-abri et des places d'hébergement supplémentaires. La mairie prévoit un réseau de lieux frais, 922 parcs, jardins, piscines, églises ou bien musées qui sont ouverts au public pour échapper un peu à la chaleur parisienne. Et pour les personnes particulièrement fragiles, des salles rafraîchies sont accessibles l'après-midi dans les mairies d'arrondissement, les centres d'action sociale, les EHPAD, quelques hôtels ou encore des salles de cinéma. La mairie appellera régulièrement 8000 Parisiens inscrits sur le fichier Chalex pour chaleur extrême. L'objectif est de repérer les personnes en difficulté et d'envoyer des secours sur place si besoin.
Émeline Ferry, un épisode caniculaire durant lequel le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés par endroit, et ce jusqu'à vendredi au moins.
C'est toujours l'euphorie chez les Verts qui continuent de fêter leur succès aux dernières élections européennes.
Les écologistes ont en tout cas décidé de mettre à profit le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts qui se tient tout ce week-end à Paris pour se projeter sur les municipales de mars 2020. Plus question de rassembler à gauche, fort de leur 3e place obtenue aux européennes, les Verts envisagent désormais de proposer des listes 100% écolo dans toutes les grandes villes de France pour ces municipales. Maxence Lambrecq.
Les Verts se sentent pousser des ailes. Pour eux, le bilan des européennes est sans appel. L'écologie a pris le pas sur la gauche. David Cormand, le patron du parti.
Nos alliés d'hier sont en miettes. Alors nous ne répondrons à aucune sommation à nous définir par autre chose que par ce qui nous réunit, l'écologie. Nous n'avons pas vocation à refonder qui que ce soit. Nous sommes l'alternative. Nous avons vocation à assumer le leadership des idées et de la vision politique autour desquelles un rassemblement majoritaire peut se construire demain.
Demain, les municipales, les écolos monteront un maximum de listes autonomes car ils ont vu aux européennes d'anciens électeurs de droite voter pour eux. Yannick Jadot.
Tous ceux qui se sentent bien dans ce projet de l'écologie, d'où qu'ils viennent, ils sont les bienvenus.
Et une majorité de militants semble sur cette ligne. À leurs yeux, la gauche est en voie de disparition.
Quelle gauche? Celle qui, par exemple, à Gardanne, continue à voter pour les bouts rouges, la centrale à charbon. Quelle gauche? Hollande? Notre-Dame-des-Landes? Sivens? Vous voyez, c'est quoi la gauche? Ça devient un peu la question. Par contre, je peux vous dire ce qu'est le projet écologique. Oui.
La gauche n'a plus de sens si de nos jours, elle n'acquiert pas une colonne vertébrale fortement écologiste.
Les écolos font donc maintenant à leur tour vaciller le clivage droite-gauche.
Autre rassemblement politique, celui des militants de la France Insoumise, réunis tout ce week-end également en assemblée représentative. Une assemblée qui a d'ores et déjà nommé le député du Nord, Adrien Quatennens, au poste de coordinateur du mouvement en remplacement de Manuel Bompard, devenu député européen.
Rassemblement et mobilisation encore à Belfort pour protester contre le plan social chez General Electric. Et puis aussi un peu partout en France pour les Gilets jaunes.
Des Gilets jaunes qui ont vécu hier leur 32e samedi de mobilisation et qui ont encore une fois défilé dans plusieurs villes comme Bordeaux, Marseille, Paris, Saint-Malo ou bien Charleville-Mézières. Des Gilets jaunes un petit peu plus nombreux que le week-end dernier selon le ministère de l'Intérieur qui les a estimés à pratiquement 12 000 contre 7 000 la semaine dernière. Des Gilets jaunes qui se demandent toutefois quelle tournure doit prendre leur mouvement. À l'image de Guillaume, 20 manifestations à son actif rencontrées dans le cortège parisien par Mélanie Juvé.
Pour moi, ça me paraît évident qu'il va y avoir de nouvelles mobilisations et qu'on ne peut pas continuer à rogner sur nos droits sans que les gens s'énervent. Mais moi, je reste optimiste sur le fait que les masses se remobilisent, on va dire. Si ça ne fait pas des manifestations, c'est qu'il faudra revenir à des formes de blocage un peu plus spontanées, un peu moins prévues et annoncées à l'avance. Dans tous les cas, oui, il faut du monde, ça c'est clair, et puis il faut des gens déterminés, quoi. Enfin, ah oui, moi je reste, et puis j'ai l'impression que chaque semaine, moi j'ai un nouveau motif pour continuer à être déterminé, donc voilà.
À Belfort, cette fois-ci, ils ont été entre 5 000 selon les autorités, 8 000 selon les syndicats, à descendre dans la rue hier pour venir soutenir les salariés du site de General Electric, des salariés touchés par un plan social prévoyant un millier de suppressions d'emplois. Nous allons maintenant prendre la direction de Besançon pour refermer ce journal. Besançon se trouve une maison où habitait Colette. C'est cette demeure et son parc arboré de 3,5 hectares dont les portes sont exceptionnellement ouvertes tout ce week-end. 1250 visiteurs sont déjà venus découvrir la maison de l'écrivaine hier et parmi eux, Anne Fauvarc de France Bleu Besançon.
C'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme, selon Aline, une Byzantine qui a arpenté les rues du quartier pendant des années sans jamais la dénicher.
Je suis venue souvent pour essayer de la trouver, je ne l'ai jamais trouvée. Donc là aujourd'hui je suis ravie d'être devant, voilà, je suis très émue. D'autant qu'elle est dans son jus, si on peut dire, Colette est partie, a tout laissé en plan. Et nous on rentre après elle, quoi. J'ai l'impression de venir alors qu'elle vient de partir.
Renée, elle est une passionnée de Colette, elle est venue tout exprès de Belfort.
Ah ben moi j'adore Colette. Moi depuis très très longtemps et je trouve que c'est un lieu vraiment, moi je ressens quelque chose.
Tandis que la foule se presse dans les allées et dans la maison, Florence, venue de la région lyonnaise, profite de l'instant.
C'est toujours très émouvant d'être dans un lieu où a vécu un écrivain aussi sensible aux choses de la vie, des animaux, du paysage, de la nature. Bon, c'est intéressant d'être dans ces murs, dans ces meubles, de découvrir un lieu où elle a vécu.
D'autres comme Philippe, passionné de patrimoine, sont venus par curiosité et n'en sont pas moins émus.
C'est magique, le cadre est majestueux, quoi. Puis surtout l'environnement avec ces grands arbres qui sont certainement plusieurs fois centenaires, c'est impressionnant.
En attendant que la ville, propriétaire depuis 2001, s'attelle à un vrai projet culturel pour le lieu, la maison de Colette pourrait ouvrir un second week-end lors des Journées du patrimoine.
La maison de Colette, c'est chemin des Montboucons à Besançon, ouverture gratuite ce dimanche encore, de 10h à 18h. Et puis si vous vous intéressez à la vie de l'écrivaine, sachez que c'est à Saint-Sauveur, en Puisaye, dans l'Yonne, que se trouve la maison. Maison où est née Colette, une maison qui se visite elle toute l'année. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Éric Delvaux.
Et Patricia Martin, mais merci Serge Martin pour ce journal.
C'est pas Patricia, lui c'est un garçon.
Mais la matinale avec Patricia Martin aussi.